exhortation vers la perfection a toujours fait partie de l'enseignement des grandes religions. On se rappelle que Jésus avait dit « Soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait ». Et Daniel a lu justement le passage d'Abdu'l-Bahá que j'allais citer en fait, à savoir que, comme Abdu'l-Bahá dit, il faudrait s'efforcer que chaque lendemain soit meilleur que la veille, n'est-ce pas? Enfin, il a une logique assez primitive et évidente à tout ça. Comme Abdu'l-Bahá dit aussi dans le passage que Daniel a lu, le changement dans cette vie est inéchappable. C'est-à-dire, on ne peut pas rester où on est. Soit on avance, soit on recule. C'est le seul choix qu'on a. On n'a pas le choix de rester où on est. On a seulement le choix d'avancer ou de reculer. C'est la nature de la vie, en fait. Comme Abdu'l-Bahá dit, toute chose qui n'avance pas recule. Alors, quand on voit les choses de cet angle-là, c'est évident que la poursuite de la perfection, c'est-à-dire au lieu d'avancer, ou, entre le choix d'avancer ou de reculer, mais évidemment, on choisit d'avancer, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas choisir de reculer, n'est-ce pas? Donc, il semble que la poursuite de l'excellence est le seul choix logique. Et c'est la seule option valable. Où, à mon avis, il y a un problème, c'est la confusion entre le fait, ou le fait d'être parfait ou de se considérer comme parfait et la poursuite de la perfection. Poursuivre la perfection est en lui-même un aveu qu'on n'est pas parfait. Parce que si je suis parfait, je n'ai pas à poursuivre la perfection. Je suis déjà là. Donc, quand Abdu'l-Bahá nous exhorte de poursuivre la perfection, le premier pas vers la poursuite de la perfection, c'est de reconnaître pleinement qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on est sans se rendre compte exactement quels sont nos défauts, quels sont nos manques à combler, n'est-ce pas? Alors, ce qui est arrivé dans certaines philosophies, et surtout dans certaines écoles, ou certaines écoles de pensée, dans l'Église chrétienne, c'est un peu le raisonnement suivant. La perfection, c'est quoi? C'est d'être sauvé, c'est d'être sauvé, c'est d'être sauvé par Dieu. Et Jésus a dit, entre autres, « Soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait ». Donc, le raisonnement, c'est que si je suis vraiment sauvé, si je suis vraiment un chrétien fidèle, alors je dois être parfait. Ou prenez la contreposée de ça. Si j'admets que je suis imparfait, j'admets par le fait même que je ne suis pas vraiment sauvé. À ce moment-là, ça embarque une peur, une crainte, une culpabilisation dans toute l'affaire, n'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, on a peur de l'échec. C'est-à-dire, poursuivre l'excellence n'est pas la même chose que de toujours réussir à faire l'excellence. Ce à quoi Abdu'l-Bahá et les autres prophètes nous exhortent, c'est l'effort, c'est la poursuite de l'excellence. Bien sûr, parfois nous allons réussir, parfois nous allons faire des gaffes, n'est-ce pas, ne pas réussir. Mais le tout, c'est de faire l'effort, n'est-ce pas? Parce que si on ne fait pas l'effort, on recule, n'est-ce pas? Les forces de la vie nous entraînent vers le bas. Donc, accepter de poursuivre l'excellence, c'est d'accepter qu'on va échouer parfois, n'est-ce pas? C'est évident. C'est-à-dire que, à moins qu'on pense qu'on va toujours réussir à tout ce qu'on entreprend, ce qui est invraisemblable, n'est-ce pas, pour quiconque. Peu importe les talents que nous avons, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de dons, de nature ou autre. Peu importe, nous allons réussir certaines choses et rater autre chose. Donc, l'échec fait partie de la poursuite de l'excellence. Et d'ailleurs, souvent, si on est vraiment honnête avec soi-même, l'échec est même nécessaire parce qu'on tire parfois plus de renseignements sur un échec que sur une réussite. Je m'explique un peu. Si je fais un effort pour faire quelque chose et je réussis, je peux ne pas savoir pourquoi j'ai réussi. C'est-à-dire, j'ai mobilisé un tas de choses, je me suis préparé de certaines façons, etc., etc. Bon, mais peut-être la raison de la réussite ce soir-là, par exemple, si j'ai donné une conférence ou j'ai posé un geste quelconque, bon, peut-être c'est parce qu'il avait une amie qui priait pour moi à ce moment-là, ok? Ou peut-être j'avais un auditoire qui était particulièrement réceptif à ce que je disais, ok? Peut-être exactement le même discours avec la même préparation devant un autre auditoire a été un échec lamentable, n'est-ce pas? Mais, donc, bref, je peux ne pas savoir pourquoi j'ai réussi quand j'ai réussi. Parce qu'il y a multiples facteurs. Mais quand j'échoue, généralement, il est beaucoup plus facile de savoir pourquoi j'ai échoué, n'est-ce pas? Donc, si on réussissait tout le temps, on n'apprendrait pas comment poursuivre l'excellence, parce qu'on serait toujours, en quelque sorte, dans la vague. Ça serait un peu comme le monde, comme nous envisageons tous, que Dieu est là toujours pour récompenser tous nos manquements, et qu'on va toujours réussir des choses, enfin, comme le parent qui couvre son enfant et qui ne laisse jamais l'enfant essuyer un échec pour qu'il ne soit pas déçu, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas réaliste, hein, on sait très bien. Donc, l'échec est nécessaire même à la poursuite de l'excellence. C'est non seulement inévitable, mais ça fait partie de la poursuite de l'excellence. Parce que ça nous donne les informations qui nous permettent de mieux faire la prochaine fois. Parfois, je formule ça de la façon suivante, cette pensée. Échouer, ce n'est pas un mal. Mais continuer à échouer de la même manière sans rien apprendre, ça, c'est mauvais. OK. Donc, il faut voir ça comme un processus et non comme un état d'être. Poursuivre l'excellence, c'est une sorte de processus de vie qu'on engage. Et pour engager ce processus, il ne faut pas être obsédé de la peur de l'échec. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on tente des choses qui sont tellement fantastiques, qui sont vouées à l'échec dès le départ, n'est-ce pas? On tente des choses qui sont raisonnables. Comme je dis, l'échec fait partie de la chose parce que ça nous apprend à mieux faire la prochaine fois. Et c'est le résultat ultime qui est important. Ce n'est pas le fait de réussir ou de rater dans le moment présent qui est important. C'est la direction où on va qui est important, selon les écrits Baha'i. Donc la moralité Baha'i, c'est une moralité du développement, c'est une moralité d'épanouissement. Le but de la moralité, c'est de s'améliorer de jour en jour, exactement comme Abdu'l-Baha a dit. Et pour cela, il y aura nécessairement des échecs. Et quand nous faisons face à l'échec, nous devons savoir comment tirer la leçon et pour mieux avancer dans l'avenir. Par contre, le perfectionnisme, c'est de considérer qu'on doit être parfait dans le moment, qu'on doit vivre dans un état de perfection. À ce moment-là, on voit l'échec tout autrement. L'échec, c'est la preuve qu'on n'est pas parfait. Ok, ben, c'est évident, si je suis parfait, je n'ai pas d'échec. Si j'ai donc un échec, je ne suis pas parfait. Et comme j'ai dit, dans le christianisme, ça remonte au fait que si je suis vraiment sauvé, je suis parfait. Donc si je suis imparfait, si j'ai un échec, je suis imparfait. Si je suis imparfait, je ne suis pas vraiment sauvé. Donc non seulement j'ai peur de l'échec, mais j'ai peur de l'enfer. Enfin, j'ai peur de tout, enfin, que je suis un bon à rien, que je suis noyé dans le péché, ou etc., mais ça, parce que j'ai ces imperfections. Alors, étant donné qu'en fait, tout le monde a des imperfections, le perfectionnisme mène à quoi? Ça mène tout simplement à l'hypocrisie, n'est-ce pas? On joue à être parfait. D'abord vis-à-vis des autres, et finalement vis-à-vis de soi-même, n'est-ce pas? Et ça s'appelle en psychologie l'aliénation de soi, c'est-à-dire on refuse de reconnaître la réalité de ses échecs, on se cache ses échecs, on refuse de faire face aux échecs, ce qui, évidemment, nous empêche de faire mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Parce que si je dis, non, j'ai pas fait échec, alors je vais prouver que j'ai pas fait échec, je vais faire exactement la même chose, et ben voilà, le cycle de répéter toujours la même faute. Vous répétez toujours la même faute pour prouver que c'est pas une faute. Alors, vous serez beaucoup mieux simplement de dire, oui, c'est une faute. Reconnaître que c'est une faute, et de tirer la leçon et de mieux faire la prochaine fois. Là, vous avancez, mais on ne peut pas faire ça sans reconnaître qu'on a échoué dans ce cas-là. On a fait une faute. Alors, la moralité Baha'i est donc une moralité de progression, de développement, d'épanouissement. La moralité chrétienne classique, telle que nous avons hérité, est une moralité d'éviter les erreurs. Par exemple, comme dans l'Église catholique, les péchés mortels et tout ça, en fait, là, si vous faites un péché mortel, c'est très grave, vous risquez d'aller à l'enfer, à moins de faire une pénitence appropriée, d'être pardonné par Dieu et tout ça. Et même encore là, en fait, c'est vraiment la peur. C'est comme si on fait une erreur, enfin, et les péchés mortels, c'est les choses, non seulement les choses comme l'adultère ou le meurtre, mais même la gourmandise est un péché mortel dans l'Église catholique, n'est-ce pas? Oui, la gourmandise.
Je pense au cash.
Oui. Non, mais j'imagine. Mais j'imagine l'origine de ça, c'est quand il avait des masses de pauvres et tout ça, et quand les riches mangeaient à leur faim et puis mangeaient beaucoup, alors les gens qui avaient des gobedens, comme tout le monde ici, enfin tous les hommes ici, de toute façon.
Merci.
Oui. J'ai dit tous les hommes ici. Alors. Ils étaient vus simplement, non seulement comme des indulgents, mais en quelque sorte comme des oppresseurs, n'est-ce pas? En fait, c'était un signe. Oui. En tout cas, la moralité catholique est une moralité d'éviter l'échec à tout prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas faire des fautes, et surtout des fautes graves, comme des péchés mortels. Alors, vous voyez très bien que, selon cette moralité, il y a une stratégie qui est optimale. Et cette stratégie, c'est rien faire. Si je ne fais strictement rien, je ne peux pas faire des fautes. C'est évident. Tandis que Baha'u'llah dit la chose suivante, il dit que chaque âme créée par Dieu possède des dons et des talents, mais tous ces dons et talents, dit-il, peuvent se manifester seulement par suite de l'exercice de la volonté de l'individu, des efforts. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr, tout développement véritable vient de Dieu, ça c'est évident, n'est-ce pas? Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu, ça c'est évident. Mais selon Baha'u'llah, pour notre bien, Dieu exige que nous fassions un effort. Et si nous fassions un effort sincère, Dieu va récompenser cet effort. Comme il y a une phrase dans le Coran qui est souvent citée, quiconque fait effort pour nous, c'est Dieu évidemment qui parle au travers de Mohammed, okay? Quiconque fait effort pour nous, en vérité, nous le guiderons dans notre chemin. Donc c'est une promesse que Dieu fait qu'il va récompenser l'effort sincère, n'est-ce pas? Et Baha'u'llah récite cette chose-là, il élabore là-dessous. Il dit que il faut faire un effort, et si on fait un effort, Dieu va nous aider. C'est pas il va nous aider, peut-être il va nous aider, il va nous aider si nous faisons un effort sincère. Okay. Il va nous aider, et donc il exhorte à faire un effort, et qu'est-ce que c'est l'effort? C'est pour s'améliorer, en fait, c'est pour suivre l'excellence, c'est ça. Donc c'est une moralité dynamique qui vise le changement, et comme j'ai dit, l'échec fait partie de cela. Donc, la stratégie optimale dans le cadre de cette moralité Baha'i, c'est de faire le plus d'efforts possible, n'est-ce pas? Évidemment, il y a des limites aux efforts qu'on peut faire, mais plus qu'on fait d'efforts, mieux que ça vaut. Mais remarquez que c'est juste la stratégie opposée à la stratégie optimale dans le cas de la moralité catholique. Le but est différent. Le but dans la moralité statique, c'est éviter des fautes. La stratégie optimale, c'est rien faire. Si je ne fais rien, je ne risque pas de faire des fautes. Mais dans la foi Baha'i, dans la moralité Baha'i, rien faire est la pire stratégie. Parce que Baha'u'llah dit qu'on n'aura rien si on ne fait pas d'efforts. Donc, on ne peut pas avoir deux conceptions plus opposés. Pour une des conceptions, la conception négative et statique, la meilleure stratégie, c'est-à-dire rien faire, est la pire stratégie pour l'autre moralité, qui est une moralité de progression et d'effort. Alors, on peut dire aussi la chose suivante. On peut dire, mais voilà, est-ce que Dieu ne joue pas un petit jeu avec nous? C'est-à-dire, il nous exhorte à la perfection, il nous exhorte à faire un effort, et en même temps, on est responsable des fautes qu'on fait. Alors, à ce moment-là, Dieu, il joue avec nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il nous met dans une situation où on est obligé de faire des fautes, et ensuite, il va nous blâmer quand on fait des fautes. Alors, évidemment, si ce n'était pas pour la pardon de Dieu, c'est-à-dire reconnaître notre responsabilité pour les fautes qu'on fait, fait partie de notre perfectionnement. Parce que qu'est-ce que c'est la perfection? On n'a pas parlé de ça. C'est l'autonomie morale, n'est-ce pas? La perfection, quel est Dieu? Dieu, il a dit que Dieu nous a créés dans son image. Mais Dieu est le quoi? Le tout. Puissant. Dieu est totalement autonome. Il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc, si on se perfectionne, si on se rapproche de Dieu, ça veut dire qu'on devient de plus en plus comme Dieu, c'est-à-dire de plus en plus autonome dans nos choix. Donc, Dieu sait que nous allons faire des fautes, et reconnaître que nous avons fait des fautes et demander pardon de Dieu pour les fautes fait partie du processus de développement de notre autonomie morale. Parce que quelle est la langue de la personne qui refuse de prendre responsabilité pour ses actions et en particulier ses mauvaises actions? Mais nous connaissons tous ce langage. Il blâme toujours les autres, c'est toujours la faute des autres, n'est-ce pas? Il ne reconnaît jamais qu'il a tort, n'est-ce pas? Il ne prend pas responsabilité pour ses actions. Est-ce que cette personne peut progresser? Mais absolument pas. Non seulement il ne progresse pas, mais il emmerde tout le monde parce qu'il est continuellement en train de blâmer les autres, de critiquer les autres, de dire voilà, regardez les fautes que les autres font. Pourquoi il fait ça? Parce que ça soulage sa propre angoisse quant à ses fautes. S'il peut dire, il y a d'autres qui font pire que moi, n'est-ce pas? Donc, reconnaître, prendre responsabilité pour ses actions, se responsabiliser moralement, ok, et demander pardon auprès de Dieu, et éventuellement des autres aussi, enfin ça dépend, mais surtout auprès de Dieu pour nos fautes, et d'apprendre de ces fautes-là, c'est une partie, c'est une chose qui nous permet de nous développer notre autonomie morale. Maintenant, juste une autre réflexion. Pourquoi, dans la poursuite de l'excellence, est-ce que nous tombons si facilement dans le perfectionnisme, dans ce jeu d'hypocrisie où, d'une part, on projette une façade de perfection et d'autre part, on sait qu'on n'est pas parfait et on joue tout un jeu avec les autres et nous-mêmes et on se culpabilise et puis voilà, tout le kit, toute notre énergie est complètement usée par ce jeu, n'est-ce pas? Je pense que, bon, la raison profonde, c'est que nous abandonnons notre autonomie morale et nous disons que nous cherchons la perfection, mais ce que nous cherchons en vérité, c'est l'approbation des autres. C'est pas la même chose. Alors, si ce qu'on cherche, c'est l'approbation des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous donnons aux autres le pouvoir de dire si nous avons réussi ou non. Alors, peu importe les efforts qu'on a faits, les autres peuvent dire qu'on a échoué, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont leur propre équité. Ils disent, mais voilà, vous avez essayé, mais vous avez échoué lamentablement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'approbation. On connaît tout. Le parent, par exemple, le père, c'est souvent le père, mais ce n'est pas toujours le père, qui critique constamment ses enfants. C'est jamais assez bon, n'est-ce pas? C'est jamais assez bon. On connaît tous ce phénomène, enfin, de père qui ne loue jamais ses enfants, qui ne leur donne jamais l'approbation. Et quel est le résultat de ça? L'enfant apprend à peu près la chose suivante. Pour avoir l'approbation des autres, enfin mon père en l'occurrence, il faut que je sois parfait. Je ne peux pas être parfait, donc je n'aurai jamais l'approbation des autres. Mais je ne vaux rien sans l'approbation. Si tout le monde dit que je suis un raté, je suis un raté. Alors, on devient soit déprimé, soit agressif, l'un ou l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire on devient dysfonctionnel d'une façon ou l'autre. Donc, j'offre la réflexion qu'une des attrapes, dans la poursuite de la perfection, c'est de confondre la poursuite de l'excellence avec la recherche de l'approbation des autres. Parce que qu'est-ce que c'est l'autonomie morale dont j'ai parlé? L'autonomie morale, c'est qu'on choisit ses propres buts et on s'évalue selon ses propres critères. Bien sûr, on s'inspire des critères de Baha'u'llah, enfin des critères des vidéos. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'idéaux, mais on accepte qu'on va échouer. Mais on peut, par exemple, dire, mais voilà, je n'ai pas fait que ce que j'ai voulu, mais j'ai quand même fait un grand effort et j'ai beaucoup grandi. On peut dire ça, n'est-ce pas? Donc, je considère que c'est une réussite. Mais peut-être aux yeux de tous les autres, c'est un échec, n'est-ce pas? Si vous êtes alcoolique et vous réussissez à éviter à boire pendant 2 ans, et vous récidivez un soir, ben, aux yeux peut-être de certains autres, vous avez complètement raté, voilà, ben vous êtes retourné au cas de départ et tout ça. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous avez fait des efforts pendant 2 ans, vous avez réussi pendant 2 ans, etc. Donc, l'autonomie morale, c'est qu'on se donne le droit de fixer nos propres buts et de s'évaluer selon nos propres critères. Ce qui veut dire qu'on devient indépendant de l'approbation des autres. C'est-à-dire, on dit, mais voilà, l'approbation des autres n'ajoute pas à ma réussite et la désapprobation des autres ne soustrait rien à la qualité de ma réussite. Parce que je m'évalue selon mes propres critères. Alors, je pense que nous vivons dans une société où ce genre d'autonomie morale est extrêmement difficile. Et ça, c'est tout un autre discours que je vais laisser. Mais ça tourne autour de toute la compétition qui est dans notre société. C'est une société très individualiste qui est basée sur la compétition, sur la concurrence à tous les niveaux. Et qui fait que les gens sont constamment jugés par les autres selon leur performance, la qualité de leur performance. Et une fois qu'on est pris dans cet engrenage, les gens ne réfléchissent plus. Ils ne peuvent pas prendre un peu de recul et dire, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je cours comme ça pour avoir l'approbation des autres? Pourquoi je fais ça? Les gens sont souvent incapables de prendre ce recul. C'est comme le fameux souris qui court sur une roulette, n'est-ce pas, enfin. Et puis, il va nulle part, mais il dépense de plus en plus d'énergie, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, juste pour répéter, les autres peuvent nous désapprouver, pour donner leur désapprobation, pour retenir leur approbation, disons, pour toutes sortes de raisons, y compris le sabotage, la jalousie. Peut-être même, ils sont jaloux du fait que vous avez réussi, n'est-ce pas? Donc, il y a toutes sortes de raisons absolument égoïstes pourquoi les gens peuvent retenir leur approbation et donc miser sur l'approbation des autres et surtout miser sur l'approbation des autres comme critère de l'excellence est, selon la moralité bahaï, une grave erreur, n'est-ce pas? Une grave erreur. Et faire cela, c'est ce que j'ai qualifié parfois, vivre la foi bahaï avec une conscience chrétienne. Parce que la moralité bahaï est très élevée, n'est-ce pas? Enfin, c'est la moralité la plus raffinée qui existe dans l'histoire, n'est-ce pas? Et on voit que la plupart des gens dans notre société n'obéissent pas les 10 commandements qui nous ont été donnés il y a 4000 ans, n'est-ce pas? Alors combien de temps ça va prendre pour que les gens se conforment vraiment à la moralité bahaï? Mais c'est pas grave! Parce que Baha'u'llah nous donne la direction et il nous donne des outils pour faire le progrès. Mais donc ce que je qualifie vivre la foi bahaï avec une conscience chrétienne, c'est d'essayer de se considérer comme parfait, comme bahaï, et de projeter cette image de perfection. Alors ça détruit les gens, ça vous détruit complètement. Alors je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Mais...